Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Un épisode un peu spécial, puisque c'est le premier épisode de la deuxième saison. Voilà, donc c'est une grande journée pour nous et pour fêter ça, nous allons faire un focus sur les films Rambo, au moins les trois premiers, et puis nous verrons où le temps nous mènera, puisqu'ils ressortent en très beau coffret 4K chez Studio Canal. Et puis, côté musique, vous découvrirez avec nous Marie Gauthier, avec deux morceaux, The War After The War et Still On The Ride, Popcorn et Banjo. Épisode 1, deuxième saison, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Alors, comme on vient de vous le dire, ce nouveau coffret va sortir avec ses remasterisations. Rambo, qu'est-ce que c'est ? Rambo, évidemment, visuellement, c'est un grand film dont beaucoup de personnes se moquent un peu de ce film. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a une mauvaise image de Rambo, mais en fait, du personnage en tout cas de Rambo, mais en fait, c'est autre chose aussi. Charles, est-ce que tu veux nous dire d'abord ce que c'est Rambo pour toi ? Dis-nous un petit peu comment tu imagines cette émission.
Ah oui, d'accord. Finalement, tu me jettes direct dans le grand bain. Alors c'est oui, avant de peut-être parler des autres et ou de que tu pitches un peu effectivement le film comme tu le sens. Alors pour moi Rambo, je dirais que c'est vraiment quand même le premier que je trouve exceptionnel, je trouve que c'est un grand film. Je crois que le 2, le 3, le 4 et le 5 sont plutôt dans la tête des gens et font que en fait tout le monde pense que c'est un gros film de bourrin, décérébré ou pro-guerre ou pro je sais pas quoi, alors que le premier est clairement tout le contraire. Donc je pense que ce soir on va peut-être parmi les gens qui n'ont peut-être pas encore vu Rambo vont peut-être découvrir vraiment ce qui est pour moi un grand film.
Et j'ai même envie de dire non pas réhabilité, parce que je pense que chez beaucoup de cinéphiles Rambo c'est avant tout le film de Ted Kotcheff, hein, le premier qui date de 1982, mais en tout cas recentrer et réexpliquer et redire, même si c'est quelque chose que certaines personnes connaissent, qu'en fait Rambo c'est avant tout un personnage aux idées antimilitaristes, c'est avant tout un grand film antimilitariste. Le premier film il sort donc en 1982, hein, c'est Ted Kotcheff qui s'en occupe, qui est un réalisateur canadien assez étonnant. Alors le premier Rambo, le pitch est très simple, on est juste après la guerre du Vietnam qui donc s'étend de 1955 à 1975. Les vétérans reviennent chez eux et puis ils sont extrêmement mal accueillis dans leur pays. Ils sont isolés, ils sont détestés parce qu'en fait, il y a toute une transition politique qui a lieu aux États-Unis pendant que ces jeunes hein, qui partent à 18 ans faire la guerre dans la jungle, pendant ces 20 ans de guerre, il y a des transitions énormes politiques qui se font sur les États-Unis, sur le sol américain. Et plus la guerre avance, moins on comprend son intérêt, en fait. Hein. Et donc, quand ils reviennent, on leur jette du sang d'animaux sur la gueule à l'aéroport. On les traite de killer baby, lady woman baby, killer baby, killer woman, drôle de lapsus. Et puis, ils sont très isolés. Et Rambo, c'est le film qui va incarner cette maladie, presque j'ai envie de dire, puisque ça raconte l'histoire d'un soldat qui vient du Vietnam, John Rambo, qui essaye de rentrer chez lui, et puis on l'empêche de revenir dans sa ville. Il y a le shérif local qui ne veut pas de vétérans américains de cette guerre. Il considère que c'est des rebuts de la société, des gens violents et dangereux, et il fait tout pour l'empêcher de rentrer. Et évidemment, ça, petit à petit, ça chauffe Ça chauffe notre John Rambo.
Ça chauffe notre chef.
Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un peu long comme présentation. T'aimes bien? Dis-moi un peu.
En fait, il revient pas dans sa ville. Il revient pour être fin. En fait, il revient pour essayer de retrouver le dernier pote de son bataillon.
Oui, c'est vrai.
Qui, en fait, est mort de l'agent orange, qui est mort du cancer, finalement, qui n'est pas mort de la guerre directement. Mais donc, ça parle aussi de ça, ça parle de ces thématiques, vraiment, effectivement, de qu'est-ce que tu deviens, les PTSD, les syndromes post-traumatiques, qu'est-ce qui t'arrive, en fait, quand tu reviens de l'armée, quoi, et comment tu deviens foutraque, ou comment, justement, dès le début, ça te dit, de toute façon, le mec est mort d'un cancer à cause de toutes les saloperies qu'ils ont balancées.
Ouais, l'agent orange, pour expliquer rapidement, c'est un produit chimique qui se trouvait dans le napalm, si je dis pas de bêtises, et qui a intoxiqué en tout cas énormément de soldats américains qui sont ensuite morts du cancer post-guerre du Vietnam.
Voilà, et qu'on retrouve dans tous les produits Monsanto aujourd'hui. Et donc, en fait, il est simplement là pour rendre visite à un ami, pour essayer de... C'est presque un pèlerinage, il arrive à pied, donc il y a tout un truc comme ça, et... Et il y a ce shérif qui, dans le livre, lui a fait la guerre de Corée. Et il y a une petite référence à ça, on voit qu'il y a une médaille dans son bureau d'ailleurs, même si ce n'est pas exploité dans le film. Et où ce shérif, effectivement, va lui dire de dégager. Et c'est à ce moment-là où effectivement, John Rambo va péter un plomb. Parce que de quel droit, en fait, après tout ce qu'il a fait pour le pays, de quel droit on le traite comme un chien? Et je trouve que c'est vraiment... En fait, j'aime tellement tout de ce film que je sais même pas par où commencer. Est-ce que c'est par le personnage, est-ce que c'est par les scènes d'action, presque un survival plus qu'un film d'action d'ailleurs.
Ben justement, moi j'ai envie de donner envie à ceux qui connaissent pas ce film. Souvent les gens qui veulent pas voir Rambo, c'est justement à cause du 2, du 3, du 4, du 5 et sur le fait que Rambo est une machine à tuer. Moi j'ai envie de dire cette chose-là concernant le premier. Il n'y a aucun mort dans Rambo 1. Il n'y a que des gens blessés, à l'exception d'une mort accidentelle. Mais en fait, Rambo ne tue personne. Ce n'est pas un film avec un body count, comme on dit, où il y a tout d'un coup 40 morts dans le film en 10 minutes, quoi.
Oui, c'est alors que dans les autres, effectivement, il est presque vu comme un boogeyman sympathique et patriotique. Alors que là, effectivement... Et pareil, ça change aussi du bouquin, parce que dans le bouquin, il est vraiment dans une espèce de compétition guerrière, en fait, avec le shérif. Et là, le film l'a encore une fois complètement effacé, et je pense à juste titre pour justement souligner le propos justement antimilitariste. Je pense que si Rambo avait tué des gens dans ce film, je pense que le message de Ted Kotcheff aurait été drastiquement différent. Que ce soit sur la santé mentale des vétérans, comme sur, en fait... ce que veut dire être militaire. Il ne veut pas, en tout cas, je n'ai pas cette impression-là, il ne veut pas mettre plus de poids supplémentaire sur les poids des militaires de la guerre du Vietnam qui s'en sont pris plein la gueule quand ils sont retournés au pays.
Et alors ça, c'est un input de Stallone en termes de scénario. Je le précise parce que la version de Kotcheff était quand même un film antimilitariste, mais il y avait une séquence où il est tellement poussé à bout par la garde nationale à la fin dans la ville qu'il tue 6 ou 7 gardes nationaux. Et c'est à la lecture du scénario de Kotcheff que Stallone a dit Rambo ne peut, ce qui est intéressant d'ailleurs, vu ce que devient le personnage, Rambo ne peut pas tuer. Il a vécu trop de choses au Vietnam, il sait trop ce que c'est que la guerre et les horreurs de la guerre. Et en fait, il ne peut pas déplacer ça dans son pays, quoi. Et évidemment, Kotcheff a suivi de Stallone, qui était la bonne, et ensemble, ils ont sorti ce film qui est pas loin d'être un chef-d'œuvre, en vrai.
Oh bah, de toute façon, Stallone, il a fait 1000 chefs-d'œuvre, en vrai. Mais parmi les 1000 chefs-d'œuvre, comme Demolition Man et Arrête ou ma mère va tirer, je pense sincèrement qu'il y en a quand même, quelques-uns qui sortent du lot, et je pense que Rocky et Rambo sont clairement des personnages. Sont vraiment des personnages de la contre-culture de l'époque, en fait, que Stallone va complètement broyer et modifier avec le temps. Mais sur ce premier Rambo, vraiment tout y est pour avoir ce message drastiquement politique et qui reste quand même, je trouve, patriotique sur vraiment comment prendre soin aussi des gens après la guerre, finalement, comment on peut faire pour aider ces pauvres types-là, quoi. Le monologue de fin de Rambo est tellement bouleversant.
Bah, tu me permets de rebondir.
Vas-y.
Je trouve que c'est un film très courageux aussi, parce que c'est un film qui sort en 82. La fin de la guerre du Vietnam, c'est 75, donc c'est 7 ans après. Pour vous donner un exemple, Ted Kotcheff raconte dans un entretien que, par exemple, les vétérans du Vietnam à cette époque-là, c'est des mecs qui, la veille de leur départ, enfin, c'est l'histoire notamment d'un vétéran, la veille de son retour après 2 ans de conflit, s'apprête à prendre son avion et puis il y a une attaque de Viet Cong sur sa base. Il se met au poste de mitrailleuse et il passe toute la nuit à mitrailler des Viet Cong qui tombent devant lui. Le lendemain, fin du combat, il y a 30 corps devant lui et tous ses potes se sont fait étriper, quoi. Et puis ce mec-là, il prend un avion et il atterrit à l'aéroport de San Francisco tout seul au milieu de la nuit. Aucune prise en charge médicale, aucun accompagnement, rien. Il reprend sa vie. Et en fait, ça, c'est la grande maladie de la guerre du Vietnam. Et la deuxième chose importante à comprendre, c'est qu'il y aura plus de morts post-américains, post-guerre du Vietnam, dus à des suicides, que le nombre de soldats américains tués sur le terrain. Il y a 58 000, un peu plus, de soldats américains morts au Vietnam. Et en fait, il y a plus de suicides depuis la fin de la guerre, de vétérans qui ont fait la guerre du Vietnam. Donc, cette guerre, elle continue d'atteindre ces gens-là et elle continue de les tuer, en fait. Et ils ont été assez abandonnés. Et tout ce film-là, je trouve que c'est hyper courageux, quoi, de sortir en 82 un film aussi radical. Le dernier monologue de Stallone est magnifique.
Ah bah oui, non, mais il est bouleversant. Mais tout est vraiment grandiose dans le film. C'est que, en plus de parler de tout cet aspect-là, on va dire guerrier, il a quand même tout un message sur, et ça je pense que c'est plutôt le côté canadien de Ted Kotcheff qui parle, mais tout un côté, on va dire, Rambo attaque la ville à la fin et il s'attaque à des endroits très précis. Il s'attaque à la station essence, il s'attaque à des boutiques de consommation. Et en fait, il y a tout un rapport aussi avec en fait, le capitalisme et envers tous ces...
Oui, les symboles.
Tous les symboles, en fait, qui font que l'Amérique est riche. La guerre, l'essence et le soft power, la consommation.
Les banques aussi, non? Il n'est pas dans une banque, hein.
Je ne crois pas qu'il soit... Il ne faut pas déconner non plus. Il reste américain, quand même. Hein. Et il y a tout un message aussi là-dessus. Enfin, vraiment, c'est un film avec plein de couches c'est vraiment bien moins con que ce qu'on croit.
Et à noter qu'il y a une fin alternative dans laquelle Stallone se suicide à la fin du film et qui est très mal passée en projection presse. Et donc, ils ont tourné la nouvelle fin, qui est très bien aussi. Mais donc, ça aurait pu être la fin de la franchise.
Oui, mais tu sais qui aurait dû jouer à la base, du coup, le colonel?
Ah, non.
Le commandant, c'est le colonel?
Ouais, le Trotman.
Trotman. Parce que c'est Kirk Douglas qui devait jouer le rôle.
Wow.
C'est ce que j'ai entendu. Hein. Et en fait, en lisant le scénario, justement... Il a dit il faut que Rambo meure, sinon ça n'a pas de sens. Et on lui a dit non, il ne va pas mourir. Il a fait je ne fais pas le film. Mais sinon, on aurait pu avoir Kirk Douglas quand même en Trotman. Et j'avoue, ça me fait un peu envie. Quoi.
Trotman étant celui qui a vraiment formé John Rambo. Alors, Rambo, ça encapsule aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est un film qui est aussi responsable de la politique de son pays. Parce que en 81, il y a Reagan qui est élu, et avec les élections de Reagan, on a un grand retour vers ce qu'on va appeler ensuite le cinéma réganien. Et le cinéma réganien, c'est le retour de l'homme fort américain, le cliché du militaire américain qui réussit tout, l'homme providentiel américain, quoi. Enfin, l'homme providentiel, c'est vraiment plutôt français avec De Gaulle et compagnie, mais on se comprend. Le cinéma réganien, gros cinéma. De propagande pro-américaine. Et donc, forcément, Rambo, ça fait un peu tache au milieu de tout ça, mais le personnage intéresse. Et bien, dès le numéro 2, c'est-à-dire en 1985, l'année de la réélection du deuxième mandat de Reagan, sort Rambo 2 de Cosmatos.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Cosmatos, un réalisateur moi j'ai envie de dire de série B, mais je pense qu'à l'époque c'est aussi une forme de série A, en tout cas des films d'action assez sympathiques. Hein. Il a fait, OK Corail, là, avec, aide-moi, le...
Rendez-vous,
Thompson, il a fait Tombstone.
Rendez-vous, OK Corail.
Non, Tombstone avec Val Kilmer.
Ah, mais j'adore ce film.
Le western. Il a fait le film de guerre Bombes et d'Athènes, je crois, avec Roger Moore qui joue un soldat de la Wehrmacht, enfin bon bref, mais qui est pas mal aussi.
Ça, c'est vraiment Camoulox, hein, par contre.
Voilà, ce genre de choses. Où il joue un Autrichien, mais bon, dans la Wehrmacht. Bref, peu importe. C'est un réalisateur très solide et surtout il s'entoure d'un énorme casting technique, hein, avec un Jerry Goldsmith à la musique évidemment, Jack Cardiff à la photo, et puis Ted Kotcheff, le réalisateur du premier, aurait, paraît-il, refusé de faire le 2. Pourquoi ? Parce que Rambo 2, qu'est-ce que c'est ? C'est 74 body counts de morts, paraît-il, c'est Kotcheff qui racontait ça, à la lecture du scénario en tout cas. Je pense qu'il y en a, je ne serais pas surpris qu'il y en ait plus. Ça devient une machine de guerre.
Oui, effectivement, mais le 2, mais j'avoue, honnêtement, hein, on parlera du 3 juste après, mais le 1, chef-d'œuvre, le 2, je l'ai vu hier, et pour être totalement honnête, j'en ai déjà, mais aucun souvenir. Donc en gros, c'est Rambo qui, depuis le premier, s'est fait arrêter, donc il est dans un camp de prisonniers, et on va lui demander en fait de faire une mission de reconnaissance, de retourner au Vietnam pour faire une mission de reconnaissance, parce qu'il y a des Russes qui sont là, il y a peut-être des anciens, des prisonniers de guerre aussi qui sont peut-être cachés dans la forêt. Et donc on va balancer là-bas. Bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu, il va se faire trahir par son équipe, et il va quand même décider de survivre. Et j'avoue que le visionnage de ce Rambo-là, qui est pourtant peut-être un truc un peu fantasmé, de se dire « Ah ok, là, on va le voir au Vietnam, du coup, on va voir dans son milieu, entre guillemets, naturel, hein, parce qu'on le présente comme ça aussi, Rambo. On le dit que dans le premier, il tue personne, mais on dit que c'est une machine à tuer, qu'il est fait pour ça, c'est sa vie, c'est son sang. »
Qu'il est chez lui en enfer.
Exactement, ça c'est Trotman qui dit ça. Et malheureusement, moi, ce film-là ne m'a pas du tout atteint. Alors, il y a des très belles séquences d'hélicoptères, des très belles séquences d'action, un très beau mulet de Stallone. Mais je trouve que c'est une bonne série B, mais en fait, qui, je trouve personnellement, n'a pas beaucoup de saveur. Voilà. Je sais pas ce que toi, tu l'as peut-être un peu plus aimé que moi d'ailleurs, mais moi, j'ai vraiment pas été subjugué par ce deuxième épisode.
Moi, je trouve qu'il manque effectivement de souffle. On sent que Kotcheff, il s'appuyait aussi sur une réflexion d'auteur, là où Cosmatos, il est un excellent faiseur qui fait un bon film d'action, mais effectivement, résultat, ça manque de souffle, ça manque d'épique. En fait, la différence de personnage avec le premier, elle est complètement folle, quoi. Tout d'un coup, Rambo tue des gens à la chaîne. On est dans le cinéma réganien, il dit des phrases lunaires qu'il n'aurait jamais dit dans le premier. Il dit « La guerre du Vietnam, elle n'est pas finie tant que je suis en vie ». Il dit des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment...
Moi, ça m'a choqué, ça.
Bah, c'est complètement contradictoire à qui il est. Alors, il faut savoir qu'il y a un trauma américain aussi, hein, qui est l'idée, chez les Américains, après la guerre du Vietnam, qu'il y a encore des prisonniers dans la jungle. Ça, c'est une idée vraiment qui a été véhiculée, hein, dans la société américaine, on est persuadé qu'il existe encore des prisonniers américains. Et tout le cinéma américain, sans exception, tendez l'oreille, c'est toujours bring him home. Tous les films américains se terminent par welcome home, you're home. C'est très étonnant, hein. Faites l'essai. Et donc, trauma total de la société américaine, puisqu'on se persuade qu'il existe encore des prisonniers dans des camps vietnamiens. La même année sort d'ailleurs le film de Joseph Zito qui s'appelle, dont le nom m'échappe, donnez-moi deux minutes, Portée disparue, avec un Chuck Norris excellent. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Et c'est sur le même sujet. Et alors, c'est 10 fois plus intéressant et maîtrisé.
Mais intéressant dans le côté série B ou dans le côté scénario du terme ?
Un peu des deux, ça reste une série B, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment attachant sur ce vétéran qui retourne dans la jungle aller choper des soldats missing in action, comme on les appelait.
Donc en fait, oui, ça, j'avoue, c'est bien que tu mettes ce contexte-là en place, parce que c'est vrai que, alors j'avoue, je ne l'avais pas du tout, mais est-ce que Rambo 2, du coup, rajoute de la paranoïa déjà sur ce truc de post-Vietnam
Je ne sais pas s'il a... Ça serait intéressant de demander vraiment à des sociologues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il surfe sur une vague de paranoïa ou de légende urbaine. Alors, est-ce qu'il y a une part de réalité là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il surfe sur une peur et sur une problématique de cette époque, et que tu mélanges au réganisme, enfin au cinéma réganien. Alors là, on est reparti... On fout Rambo torse nu, on balance de l'huile sur ses muscles, une mitraillette, un couteau Bowie, et il repart dans la jungle assoiffé de sang, quoi.
Ouais, c'est vrai que... Mais en fait, c'est même troublant. Quand on aime autant le 1 que nous, en tout cas, quand on voit le 2, c'est vraiment... Enfin, c'est pas triste le mot, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais Franchement, je n'ai pas l'impression de voir un film Rambo. J'ai l'impression en fait, d'avoir une pâle copie d'un autre film et surtout un personnage qui, en fait, n'existe plus. Même le monologue de fin est catastrophique au possible. Enfin, vraiment, il y a un truc un peu poisseux, mais pas dans le bon sens du terme, dans ce Rambo-là.
Ouais, il y a une tentative, effectivement, comme tu dis, le monologue de fin du premier est extrêmement puissant et il y a une tentative un petit peu d'en récupérer les miettes et de le réinjecter dans le 2, mais ça n'a plus aucun sens parce que tout ce qu'a fait Rambo pendant 1h30 avant n'est pas du tout en adéquation avec ce monologue de fin du 2 qui devient un résultat assez, assez fade.
Bah, ouais, même complètement bête, hein. Pas se mentir, l'écriture est pas dingue et même, j'ai envie de dire, il y a certains plans.
Il y a Cameron à l'écriture.
Oui, mais Cameron, en fait, il a écrit le scénario, mais il s'est fait complètement dépouiller après. Et en fait, je crois que ce sont les prods qui ont fait non, mais en fait, l'idée de base est bien, retourne au Vietnam, c'est super, mais par contre, on va faire complètement autre chose. Et donc, je crois que Cameron a un peu désavoué le truc. Hein.
En tout cas, quand même, on est un petit peu dur techniquement avec le film. Moi, je trouve que c'est un film.
C'est très ringard, hein, quand même.
Non, moi je trouve que visuellement ça tient la route, c'est très dynamique. Ça reste un vraiment bon film d'action. Il y a un usage important de l'arc, ce qui moi me plaît toujours, avec des flèches à la fois explosives et des flèches non explosives, ce qui est tout de même assez rare au cinéma. Mais non, en vrai, trêve de plaisanterie. Moi je trouve ça plutôt très correct et extrêmement bien conçu. Mais voilà, je maintiens que c'est un film 100 fois inférieur au premier et résultat, on en perd un petit peu, il perd un peu de sa saveur, quoi. Ça devient une série B, voilà. Mais correct.
Oui, non, mais c'est sûr que ça reste correct, mais encore une fois, vraiment, c'est terrible. J'ai déjà quasiment plus de souvenirs du film, quoi. Enfin, c'est terrible d'en arriver là quand on regarde un film qui doit normalement donner quand même un peu de plaisir et un peu de... Je trouve, en tout cas, effectivement, il est bien fait, mais il n'est, à part la séquence de fin d'hélicoptère, je trouve qu'il n'est pas si généreux que ça. Même s'il y a plein d'idées, je suis d'accord avec tout. Mais il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est la déception de voir le deuxième, ou si c'est simplement, quand même, une mise en scène, quand même, que je trouve, moi, parfois un peu molle et très 80 pour le coup, hein, à certains moments.
Mais surtout, tu mettais le doigt sur quelque chose d'important pendant qu'on regardait le film. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est moins attaché. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste fort. Le premier, il y a le personnage du shérif, hein, qui est un énorme acteur dont le nom m'échappe. Je vais vous le dire tout de suite. Et voilà, c'est un personnage extrêmement fort, bien campé. Et il y a un duel comme ça qui se met en place entre les deux. En revanche, dans le deuxième, on a à la fois un chef Vietcong, vietnamien en tout cas, et un chef russe. Les deux se partagent l'écran. Ils n'ont pas vraiment de... merci, il s'appelle... Alors, le shérif qui est mort récemment s'appelle Brian Dennehy. Acteur, voilà, grand acteur américain, très important. Donc là, il y a vraiment un antagoniste fort en face de Rambo, ce qu'il n'y a pas dans le 2. Et donc forcément, je trouve que ça perd un peu de ça... De son intérêt, quoi.
Bah en tout cas, côté Vietnam, il y a un méchant, mais bon, on ne sait pas trop, c'est plutôt des militaires, on ne sait pas trop qui est qui.
Et il y a le russe,
en fait. Et c'est surtout... Enfin, en tout cas, ils sont pas... on va dire, il n'y a pas d'antagonisme envers eux. Mais c'est plutôt, effectivement, ce chef russe, en tout cas... qui est plus montré comme le grand antagoniste, mais bon, aussi c'est l'époque, hein, c'est l'URSS contre l'Amérique. Donc voilà, il représente ça aussi. On sent bien la propagande un peu anti-russe, pro-américaine. Et effectivement, il apparaît 10 minutes, et franchement, ces séquences, elles sont mortelles. Mais effectivement, je t'avais fait la réflexion, mais pourquoi il n'est pas là plus? Parce que vraiment, finalement, on sait pas. Trop qui a... Enfin, pourquoi Rambo se fait complètement agresser? Enfin, on ne sait pas qui agresse qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas... Donc, il y a juste... On lâche juste un russe en disant « C'est lui le méchant, démerdez-vous avec ça. » Et c'est vrai que là-dessus, c'est un peu... C'est un peu pénible.
Et moi, je redis une dernière fois, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, le film de Chuck Norris qui s'appelle 1984, Portée disparue, même sujet, meilleur film. Et tout de suite, une petite pause musicale avec donc la découverte de cette compositrice et chanteuse américaine, Marie Gauthier.
Je suis parti aux États-Unis et j'ai traversé 3 fois le pays. Je suis allé approximativement dans une 40aine d'États, la Californie, Washington, Floride, Géorgie, Louisiane, Texas, un peu partout. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré pas mal de gens haut en couleur, qui chacun à leur manière m'ont aidé à comprendre ce qu'était, en tout cas j'ai l'impression vraiment, ce qu'était vraiment les États-Unis et le peuple américain, en bien comme en mal. Alors je pourrais vous parler de la fois où je me suis fait draguer par un type qui était nazi et qui n'assumait pas son homosexualité, ou de cet ami qui a été menacé de mort par des flics en civil dans un bar, d'une partie de billard interminable à Savannah où j'ai joué contre un jazzman qui m'a plumé, ou encore un couple de retraités adorables dont le mari était beaucoup trop fort en blind test, à tel point qu'on a parlé musique toute la nuit. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de Lucky. Lucky, c'est un vétéran à moitié Cherokee qui a fait la guerre d'Irak et la bataille de Fallujah. Il avait une dégaine assez dingue, on était dans le Montana. Il avait une barbe rasée avec une énorme moustache quand même, des cheveux longs. Le mec était petit trapu, jean, bottes de chantier, blouson en cuir, l'espèce de cuir sans manches, de biker, et la grosse chemise à carreaux, quoi. Donc il avait vraiment un côté, comme dirait Renaud, un blouson noir. Et vraiment, il avait, comme un peu, en vrai, un peu comme Rambo, il avait ce couteau, ce Bowie un peu à la ceinture, avec une lame noire, hein, comme le cétomal à la lame noire, c'est pour pas que ça brille dans la nuit. On voit déjà la mentalité de la personne. Et en tout cas, on a commencé à discuter avec lui et mes potes, et en fait, finalement, c'est hyper bien entendu, on s'est amusé, et on a finalement passé de nos meilleures soirées du road trip. Et il m'a beaucoup parlé de la guerre, des traumatismes, de ses amis morts au combat, de la difficulté de s'en sortir malgré la foi qu'il a vraiment envers pour son pays, et l'amour qu'il a pour sa famille et toutes ses traditions amérindiennes. Et même s'il m'a pas complètement déroulé sa vie, on a vraiment pas mal discuté des PTSD, de comment il s'en sortait et comment s'en sortaient ses camarades. Et là, vraiment, à l'instar de Rambo 1, on voit bien que le retour est parfois extrêmement compliqué, voire impossible, et l'accompagnement des soldats parfois minime. On comptait en 2022 131 cas de suicide parmi les vétérans par jour, ce qui fait à peu près quand même 50 000 personnes qui se suicident aux États-Unis. J'ai pas trouvé de chiffres pour la France récent. Tout ce que j'ai pu grappiller, c'est le nombre de 8 000 militaires par an qui se suicident en France. Et il s'agit de la deuxième cause de mortalité quand même hein, chez les militaires. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous conseille le documentaire Le souffle du canon, qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Public Sénat, ainsi que vraiment le superbe documentaire de Pierre Schoendorfer qui a gagné un Oscar, La section Anderson et Réminiscence, Retour sur la section Anderson qui est la suite. Côté musique, j'ai 2 morceaux pour vous que j'ai choisis, de l'album Rifles and Rosary Beads de Marie Gauthier, une autrice-compositrice qui a travaillé pour le coup avec des vétérans et leurs familles pour écrire l'album. Le premier morceau, The War After The War, parle de ceux qui restent et qui attendent le retour de leur époux-épouse, sans savoir si un jour ils reviendront, et du poids de l'attente, et de dire aussi qu'ils sont aussi à leur manière des héros. Le deuxième morceau, Still on the Ride, parle lui de la résilience et de réussir à vivre malgré les traumas et les cicatrices, un peu comme Lucky. Pour finir, j'ai envie de citer Master of War de Bob Dylan, qui disait des puissants de ce monde qui font la guerre. Je crois que vous constaterez, quand l'heure de votre mort sonnera, que tout le fric que vous avez amassé ne pourra jamais racheter votre âme. Bonne écoute. Who's gonna care for the ones who care for the ones who went to war? There's landmines in the living room and eggshells on. I lost myself in the shadow of your honor and your pain. You stare out of the window as our dreams go down the drain. Invisible. The war after the war. Me and smile, say
stronger than you think I am. I'm right here by your side. I am not your enemy. I don't wanna fight. There's no going back in time. I know you're not the same, but you are not the only.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Looking back now, who the hell knows where soul of a dead soldier goes. Guardian angels, maybe they're true. My guardian angel, maybe it's you. I shouldn't be here, you shouldn't. But it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. Got holes in my eardrums, bruises and claws, double vision, and my stomach's in knots. Got pain in my fingers, I hurt from my head to my toes. I wake up here like I'm 90 years old. I shouldn't be here, you shouldn't be gone. But it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. Thank you. were family to me right up till the end. You're still with me now. I feel you, I know. You're pushing me forward and you'll never let go. I shouldn't be here, you shouldn't be gone. But it's not up to me who dies and who carries on. So I sit in my room and I close my eyes. And me and my guardian angel were still on the rise.
Et vous êtes sur Aligre FM 93.1, Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo, spécial Rambo. On va tout de suite faire un focus sur Rambo 3, qui est aussi disponible dans ce coffret 4K. Alors, Rambo 3, film de Peter MacDonald. On est en 1988 quand ça sort. Et là, on est sur un film qui, cette fois-ci, se passe en Afghanistan. Parce qu'il faut être ISO, j'ai envie de dire, avec la géopolitique du moment. Et la géopolitique du moment, c'est la guerre URSS-Afghanistan qui date de 79 à 1989. Guerre qui, pour l'URSS, est souvent comparée au Vietnam pour l'Amérique. Hein. C'est le trauma de l'URSS, c'est la guerre en Afghanistan. Donc, l'occasion pour les productions américaines de faire un peu de propagande et de taper un petit peu sur l'URSS. Charles, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu penses de ce Rambo 3 et de quoi ça parle ?
C'est Rambo qui s'est réfugié en Thaïlande, je crois. On a l'impression que c'était la Thaïlande, hein. On n'est pas sûr à 100%.
Si, il le dit Bangkok.
C'est Bangkok. Je n'étais pas sûr. Et en fait, il est à peu près sa retraite militaire. Bien sûr, on revient le chercher en lui disant « refais la guerre », il dit non. Trotman dit « bah j'y vais », il se fait capturer. Et du coup, il dit « bah j'y vais ». Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Donc c'est finalement Rambo qui va refaire la guerre quelque part. Donc cette fois-ci, comme tu as dit, en Afghanistan, pour bien dire aux Russes, ben voilà, maintenant c'est votre Vietnam à vous. Et ils le disent littéralement dans le film, je tiens à le préciser, ils disent, voilà, maintenant c'est votre Vietnam, démerdez-vous avec ça. Et je trouve le film vraiment très cool. Le 2, encore une fois, voilà, hein, un peu sans plus. Et le 3, même si c'est toujours pas Rambo, on peut dire salut au personnage, hein, pour toujours, je crois. Mais finalement, à part 15 premières minutes un peu longues comme ça, où ça va, ça vient, et puis on dit, bon, bah, finalement, il va faire la guerre, on le sait bien, je trouve que c'est un très bon film d'aventure au début. Après ces 15 minutes là de blabla, il y a vraiment, vraiment des paysages de désert, enfin, vraiment, c'est magnifique. Il y a vraiment presque un côté Indiana Jones parfois, et même dans certains combats, c'est assez étonnant. Et puis, il y a, je pense qu'il y a bien 40 minutes d'attaque, 40 minutes d'attaque de base, où là, ça dégomme de partout. Et c'est franchement, pour moi, c'est une... Je l'avais jamais vu. Et je trouve que c'est une belle réussite, personnellement.
Et il y a même quand même un duel char d'assaut, hélicoptère de combat. Ça, moi, j'ai rarement vu ça, où les deux se foncent dessus. Rien que pour ça, ça vaut le coup de choper le coffret, quoi.
Ah oui, complètement. J'avais, c'est là où on voit, on n'accorde pas la même importance aux séquences, toi et moi, mais effectivement, cette séquence de fin est quand même assez barjot.
En tout cas, moi, je me souviens, je l'avais déjà vu il y a longtemps et m'était resté toute la direction artistique et les décors et les paysages. Et vraiment, je trouve que c'est un très joli film. La photo est superbe. Je n'ai pas le nom du dire photo là en tête. On avait regardé, ça nous disait rien.
Parce que le gars a malheureusement pas fait grand-chose, alors je trouve que le film est plutôt beau.
Et c'est un très, effectivement un très bon film d'aventure. Les paysages avec les plans larges de tous ces magnifiques paysages nous font voyager. Et puis, le personnage de Rambo, moi, je le trouve un peu plus attachant que dans le 2. Il a en sidekick un jeune garçon, ce qui va apporter aussi un autre regard sur ce personnage, un regard plus jeune. Et je trouve que ça le rend un petit peu plus attachant que dans le 2, où son sidekick est un personnage féminin qui, honnêtement, je peux pas dire qu'elle sert à rien parce qu'elle a une scène clé dans le film, mais elle est moins intéressante que le petit garçon. En tout cas, moi, je me suis beaucoup attaché à ce petit garçon du 3, et ça apporte quelque chose quand même. Après, comme tu dis, le début est assez catastrophique, mais mérite d'être vu pour d'autres raisons. C'est-à-dire que là, les 10 premières minutes de Rambo 3, on est vraiment dans un très, très grand nanar, avec 2-3 gros plans sur Rambo qui se tourne et qui regarde presque la caméra avec son mulet énorme. Et ça c'est digne. J'aime pas dire nanar, hein, ces films qu'on aime parce qu'ils sont ratés, mais quand même, c'est digne de ça, quoi.
C'est vrai que c'est quand même une catastrophe là-dessus. Mais c'est bizarre, on a presque l'impression que c'est quasiment, en fait, on dirait presque que ça a été, tu sais, retourné après, tu sais, des comment on dit, des postes...
Des pick-up scenes, quoi.
Ouais, mais tu sais, des post-shoot, quoi.
Ouais.
Où vraiment, c'est dire, attendez, on va trop vite, il faut contextualiser un peu pour les gens, je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il y a des plans cata, mais... Et vraiment, je me dis sincèrement, effectivement, le désert... les méchants russes, ou plutôt, enfin bon, les nazis, quoi, en gros, hein, on va pas se mentir. L'enfant, ça fait. Il y a un petit côté 2001 Indiana Jones, hein. Quand même, il y a tout un côté. Il y a un moment, il y a Rambo qui se combat à une espèce de Golgoth, comme Indy. T'as vraiment eu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande inspiration, quand même, presque Spielbergienne, quoi, dans ce film-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je l'ai aimé, hein. Mais du coup. Je le trouve beaucoup plus génial que le deuxième film. Et surtout, il y a cette fois-ci, là où peut-être le deuxième, si vous voulez, plus jungle étouffante, là, on est plutôt dans des grandes plaines désertiques. Et donc, il y a de l'espace, il y a vraiment... il y a une espèce de souffle épique dans le film. Et puis, comme tu disais, on l'a vu avec Thomas et ma copine. Et ma copine, il y a un moment, une scène de il y a plein de...
Une charge
avec des chevaux. De cavalerie. Ouais. Merci, une charge de cavalerie. Et il y a vraiment ce truc où ma copine a vraiment fait une espèce de souffle en disant « Oh !» C'est intense, quoi. Il y a vraiment ce truc de grand film d'aventure qu'on partage en famille, que je trouve vraiment hyper intéressant, en fait. Et c'est presque... C'est là où je me dis c'est presque une autre lecture de Rambo, mais que je trouve cette fois-ci plus agréable.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Il y a un parallèle à faire avec un autre film, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle La Bête de Guerre, qui est aussi un film qui est sorti en 88 et qui est le premier film de Kevin Reynolds, qui est connu ensuite pour avoir fait Robin des Bois, Prince des Voleurs, et co-réalisé Waterworld. Et,
qui est sous-coté.
Et je suis assez d'accord. Et La Bête de Guerre, c'est très simple, hein. C'est des Mujahideen, donc des soldats afghans qui combattent un tank perdu de l'URSS, perdu dans les vallées afghanes. C'est un film qui a très bonne réputation, qui est considéré comme un très grand film de tank. Moi, je le trouve plus inégal, mais la scène d'ouverture est extrêmement choquante et marquante. Et puis, il y a plein de choses intéressantes dans le film aussi. Donc voilà, c'est aussi un film à creuser qui souligne un petit peu les mêmes enjeux politiques et géopolitiques de l'époque. Rambo, en tout cas, ces trois premiers films, ils encapsulent comme ça. Ils sont un petit peu l'éponge de tout ce qui se passe dans le pays qui les met en production. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que ce personnage de Rambo, résultat, dépasse un petit peu le scénario qu'il a écrit. Ce que je veux dire, c'est qu'on part sur un personnage fort et en fin de compte, c'est les événements géopolitiques extérieurs au monde du cinéma qui vont chambouler complètement ce personnage et la perception que les gens ont de ce personnage. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu une réalité. Il va subir tout ce qui se passe dans la politique de son pays et devenir aujourd'hui une icône des hommes bodybuildés, musclés, qui ont peur de rien et qui peuvent tuer tout le monde, quoi. Ce qu'il n'était pas au début, il était un vétéran fragile.
Oui, et puis de toute façon, on voit que Stallone, en fait, qui est maintenant un des ambassadeurs de Trump. Enfin, c'est quelque chose comme ça d'un peu presque irréel quand on voit, en tout cas, les figures que sont Rambo et Rocky, qui est quand même une espèce de outsider, underdog, qui va réussir à s'élever dans la société. Et quand on voit après les suites, c'est vraiment presque, je trouve, un crachat au scénario à l'auteur d'origine. Mais après, c'est en même temps Stallone qui apporte les scénarios avec lui quasiment. Donc finalement, c'est la vision d'un auteur et d'un homme. Et cet homme, je ne sais pas s'il a changé avec le temps de pensée, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces franchises-là évoluent avec lui. Et qu'on le veuille ou non, c'est une vision d'auteur et une vision du monde qu'il a.
De la saga Rambo, existe deux autres films. Le 4, qui se passe en Birmanie, que moi j'avais vu en salle. Est-ce que tu l'avais vu en salle ?
Non, du tout, je l'ai raté. Et j'avoue, je suis vraiment pas fan de celui-là. Je pense que je préfère voir le 2 que le 4, j'avoue.
Moi, j'avais bien aimé, mais parce que c'était le premier que je voyais en salle aussi. Et je pense qu'il y avait une espèce de... Alors là, pour le coup, on est vraiment dans de la violence décomplexée au maximum. Avec des choses extrêmement dures, on arrache des jugulaires à main nue, on mitraille des mecs avec du calibre, je sais pas combien, de la mitrailleuse à bout portant, enfin avec de la cervelle qui t'arrive sur la gueule. Ah voilà, c'est on veut, en veux-tu, en voilà, le plus gore, le plus possible. Mais je pense qu'on va s'accorder sur une chose, la surprise du retour de Rambo ne vient pas du numéro 4, qui doit dater comme ça de 2006, quelque chose comme ça, mais du numéro 5, qui est sorti il y a très peu de temps. Le numéro 5, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ?
Ça, pour le coup, je l'ai vu première séance de 10 heures, et c'était peut-être un peu violent pour une matinée. Mais c'est toujours pareil, là, on parle de Trump encore une fois, etc. Et c'est quand même l'histoire de Rambo qui vit dans son ranch au Texas ou à la frontière mexicaine, qui a une espèce de pote qui vient du Mexique, enfin d'une femme mexicaine.
Un peu belle-fille, non, un peu.
Je sais plus, mais c'est sa belle-fille ou si. Enfin, c'est quelqu'un qu'il considère un peu comme sa famille, en fait. Et cette fille va partir au Mexique, elle va se faire kidnapper, elle va aller dans des cercles de prostitution illégale, etc. Et en fait, Rambo va péter un plomb et va en fait faire une guerre contre le cartel. Et il y a quand même, moi je me rappelle très bien, c'est parce que le film, effectivement, il date d'il n'y a pas si longtemps, il y a quand même cette séquence où Stallone quand même traverse le Mexique, va récupérer la fille et se recasse en bagnole. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il percute la frontière, enfin les fils barbelés qu'il y a, ou en tout cas le mur entre guillemets qu'il y a, ce grillage, et il va le percuter et l'écraser, quoi. Et pour moi, c'était vraiment histoire de dire, vous voyez, les murs ne servent à rien, le Mexique, les États-Unis, c'est des proches cousins, et en fait les gens passeront parce qu'ils doivent passer pour une raison ou une autre. Et du coup, Stallone a ce truc un peu toujours un peu bizarre, où t'as l'impression qu'il... je sais pas, il y a un côté un peu Clint Eastwood, tu vois, dans ce film-là, je trouve. C'est en même temps républicain, et en même temps, tu te dis... Il y a quand même quelques idées qui paraissent plus à gauche qu'autre chose.
Ouais, je comprends intellectuellement. J'ai du mal à imaginer, mais sans doute, à ce niveau-là d'écriture, que ça a été réfléchi. Mais je l'ai pas vu comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est sûr. En tout cas, c'est un Rambo qui est assez dur au niveau dramatique. Puisque Rambo perd des... Voilà, on spoil ou on spoil pas ? On spoil. En gros, c'est cette fille un peu adoptive, hein, qui va chercher, qui va récupérer dans les cartels, meurt d'une overdose dans sa bagnole, hein, dans une scène qui est quand même assez marquante. Et puis qui va évidemment motiver sa vengeance assoiffée de sang. Et ensuite, ça devient un espèce de film d'action assez cool, avec des tunnels, et puis juste le cartel, enfin des mecs du cartel qui se font dérouiller tout le film. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que c'était très fun, très sympa. Évidemment, j'ai depuis longtemps enterré l'image du premier Rambo, qui, je pense, n'existera jamais autrement que dans ce premier film. Mais si on est en paix avec ça, Rambo 5, extrêmement bon, petit bonbon, petite tête brûlée, quoi, tu vois.
Ouais, une petite tête brûlée pour dire au revoir un peu au personnage, quoi. Moi, après, j'avoue, je préférais quand même toujours Rocky Balboa, le dernier Rocky sorti en termes de fin de personnage.
Ouais, de revival un peu tardif et de clôture.
Exactement.
Il est excellent, pour le coup, Rocky Balboa, il est vraiment excellent.
un peu vieilli quand même. Hein. Je tiens le, je sais pas si tu l'as revu. Il a un peu
avec
vieilli.
Tout le truc numérique, genre.
Ah ouais.
Les combats numériques et tout. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal comme idée pour le faire remonter sur le.
Ouais, mais c'est il y a de la beauté de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a plus de beauté dans Rocky que dans Rambo malheureusement. Mais ça vaut quand même le coup de mater. Enfin, je veux dire dans les suites, hein, bien sûr. Je parle pas des premiers. Mais le Rambo 5, effectivement, c'est quand même un kiff.
Après, si on doit choisir Rambo ou Rocky, qu'est-ce que tu choisis?
Ah non, mais moi je suis obligé de dire Rocky, en fait. Là, malheureusement, Rocky, pour moi, un film de sport sur la boxe, c'est... Enfin, les films de sport en général, moi, ça me touche beaucoup.
Non, je suis assez d'accord, et même, je trouve que quand même, il n'y a pas photo, quoi. Rocky, c'est quand même un cran au-dessus. Mais le premier Rambo a une énorme intensité et un souffle politique... très 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 puissant quoi. Donc voilà, jetez-vous sur ce coffret, jetez-vous sur le 4 aussi si vous voulez le voir, une espèce de déchaînement de violence, et sur le 5 si vous voulez voir peut-être le meilleur des derniers Rambo.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.